Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Louis. Chez Louis Média, on est une équipe très jeune. Pourtant, dès qu'on a commencé à réfléchir à travail en cours, on s'est intéressé au sujet du vieillissement en entreprise. Qu'est-ce que ça implique d'arriver en fin de carrière? Quelle place est-ce qu'on veut encore prendre? Quelle place est-ce qu'on nous laisse? On avait identifié des personnes qu'on voulait interviewer sur la placardisation, ou au contraire sur la valorisation des personnes les plus expérimentées. Et puis, la première semaine du lancement de Travail en cours, en mars 2020, on est rentré dans le premier d'une série de confinements. Sur le coup, on s'est concentré sur les thématiques liées à ce chamboulement brutal dans nos vies professionnelles. Les travailleurs en première ligne, le télétravail obligatoire, l'incertitude. Un an plus tard, avec plus de recul, on se rend compte qu'en fait, le sujet des seniors au travail est plus actuel et pressant que jamais. Parce que depuis le début de la crise liée au Covid-19, de nombreux grands groupes ont eu recours à des départs accélérés en retraite, qu'on appelle aussi pré-retraite, pour éviter des licenciements. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, la journaliste Marion Botorel se demande pourquoi, alors que les pouvoirs publics tendent quand même à repousser l'âge de départ à la retraite, les départs en pré-retraite semblent arranger tout le monde sur le court terme, les salariés et les entreprises. Elle explore aussi ce que cela veut dire sur le plus long terme, pour les travailleurs, pour les entreprises, pour la société, de pousser les seniors vers la sortie en période de crise. Je suis Louise Emerlet. Bienvenue dans Travail en cours.
En 1982, sous la présidence de François Mitterrand, le droit à la retraite est fixé à 60 ans. En partie parce que jusqu'alors, on ne touchait qu'une petite retraite et à 65 ans. C'est un âge qui se rapprochait de très près de l'espérance de vie de l'époque. La gauche au pouvoir inscrit donc dans la loi ce droit au repos des travailleurs. Depuis, toutes les réformes qui ont tenté de s'atteler à notre système de retraite n'ont cessé de retarder cette promesse. En 2010, par exemple, l'âge de départ pour toucher sa retraite à taux plein est décalé à 62 ans. Et dernièrement, la réforme des retraites portée par le gouvernement d'Édouard Philippe et qui a été mise sur pause avec la crise du Covid voulait aussi fortement inciter les travailleurs à partir encore plus tard. Retarder l'âge de départ à la retraite de notre population vieillissante, ça, c'est la volonté de l'État pour pallier au déficit du système de retraite. Mais dans les faits, les entreprises et les travailleurs seniors s'accordent souvent pour que ce départ à la retraite arrive beaucoup plus tôt. Selon l'OCDE, en 2019, la France est même le pays où l'on sort le plus tôt du marché du travail, à 60,8 ans en moyenne. C'est un chiffre inférieur de 4 ans à la moyenne des pays de l'OCDE, et alors que nous sommes encouragés, depuis 10 ans, à partir à 62 ans. Avec la crise liée au coronavirus, cette tendance à quitter précocement l'emploi s'est encore accentuée. Il y a d'abord eu des licenciements secs dans des entreprises subitement fragilisées par le contexte économique, et en première ligne, les plus âgées. En effet, Pôle emploi estime qu'en 2020, dans le cadre des plans sociaux signés pendant cette crise, les plus de 50 ans ont représenté les deux tiers des ruptures de contrats de travail. Et puis ceux qui ont échappé à cette vague de licenciements se sont vus offrir des plans de départ en pré-retraite financièrement très avantageux. Les conséquences économiques de cette crise ont poussé un grand nombre de vieux, de seniors, d'aînés, d'expérimentés, appelez-les comme vous voulez, à partir en retraite anticipée. 130 départs de seniors chez Bosch. Une majorité de pré-retraite parmi les 3000 départs annoncés chez Safran, jusqu'à 1900 cessations anticipées chez Renault, mais aussi chez HSBC, Boiron, Bridgestone ou Airbus. Je me suis demandé ce qu'il se joue derrière cette tendance en période de crise des entreprises à pousser vers la sortie les salariés les plus âgés. Et ce que ça dit de la place qu'on donne aux seniors au travail et dans notre société. Les pré-retraites, c'est un dispositif qui permet aux salariés les plus âgés, à moins de 4 ans de leur retraite effective, et volontaires de stopper leur activité tout en continuant à être payés entre 60 à 80% de leur salaire. Airbus, par exemple, a proposé à environ 1000 personnes de bénéficier de ces pré-retraites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place depuis la crise. Ces salariés sont payés pour patienter jusqu'au jour où ils pourront bénéficier de leur retraite. Selon l'Association nationale des DRH, les pré-retraites ont ainsi constitué la majorité des restructurations liées à la crise. Rien d'étonnant en France pour Anne-Marie Guillemard, sociologue et professeure émérite à l'Université de Paris.
Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Oh, c'est très joli.
Elle étudie depuis des décennies les politiques de système de retraite et d'emploi des seniors. Aujourd'hui rattachée au Centre d'études des mouvements sociaux, elle s'inquiète de cette propension à faire partir quasiment naturellement les plus âgés.
On est un des pays où la discrimination par l'âge dans l'emploi est la plus considérable et la moins pourchassée. C'est une absurdité. Ça n'a aucun sens.
Pour comprendre ce que veut dire Anne-Marie Guillemard, il faut avoir en tête qu'en ce qui concerne les 60-65 ans, nous avons l'un des taux d'emploi les plus bas d'Europe, 33% en 2020 contre 45% dans la moyenne de l'Union européenne. Et l'une des raisons de ce retard français, le recours massif et pendant des décennies à ces fameuses pré-retraites qu'a beaucoup analysé Anne-Marie Guillemard.
La France a été un peu à la pointe des pré-retraites et en a fait plus longtemps que tous les pays européens et même au niveau mondial. Le début, c'est ce qu'on a appelé les allocations spéciales du FNE, qui ont été mises en place en 1972 et qui ont évidemment pris de l'importance avec la crise pétrolière, le choc pétrolier de 1974, et qui étaient là pour... ça s'appelait garantie de ressources licenciement. Donc ça disait bien ce que ça voulait dire. Ça concernait les travailleurs âgés qui étaient victimes de licenciement et qu'on estimait ne pas pouvoir réintégrer dans l'emploi. Donc, avec ce constat d'échec quasi assuré, on met en place une garantie de ressources, c'est-à-dire qu'on choisit de les indemniser plutôt que d'essayer de les recaser dans l'emploi. Donc, on est dans le début de ce qui va devenir une discrimination pour une catégorie d'âge, qui sont jugés parce que tous les pays n'ont pas fait le même choix. C'est-à-dire que d'emblée, là, on voit bien que les travailleurs âgés sont jugés non reclassables, donc il vaut mieux les indemniser, et donc inemployables. Et cette étiquette d'inemployable, ça va suivre les travailleurs âgés jusqu'à aujourd'hui. La libéralisation, l'explosion donc de ces pré-retraites garanties de ressources, ça va être 77. 77, le choc pétrolier est bien enclenché, c'est Giscard d'Estaing, qui n'arrive pas, mais ça va durer encore longtemps, qui n'arrive pas à gérer le chômage. Et jusqu'en 1980, l'arrivée des socialistes au pouvoir, on a une accélération, on observe une accélération impressionnante de ces cessation anticipée d'activité.
À l'époque, l'explosion du recours à ce dispositif public quasiment généralisé représente un coût énorme pour l'État, qui décide donc petit à petit de réduire ses aides. C'est alors au tour des entreprises de prendre progressivement le relais en complétant les pensions. L'idée est qu'il vaut mieux un retraité qu'un chômeur.
Et pour quel résultat ? Pour des résultats très médiocres. Parce que on sait, avec les études qui ont été faites, que les départs en pré-retraite ont servi à supprimer les emplois et pas du tout à embaucher les jeunes. Au contraire, dans les comparaisons internationales qui ont été faites, ce sont les pays qui ont fait le plus de sorties anticipées d'activité, qui ont le moins sorti du chômage les jeunes ou résolu les difficultés. Donc, c'est contre-productif, disons, à cet égard. Donc, ça n'a pas marché, la solidarité entre les âges, on vous laisse l'emploi, etc. Mais par contre, ça a été un motif pour les salariés âgés de quitter. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils disaient ça couramment. Et toutes les années 90, on s'aperçoit que les pouvoirs publics essayent de restreindre les voies de sortie précoce, renchérir le coût des pré-retraites pour les entreprises. Malgré tout, et parce qu'il y a beaucoup de pré-retraites privées aussi qui se mettent en place, les entreprises veulent avoir la main libre pour ouvrir des voies de sortie anticipées à leurs mains, je dirais. 2003, c'est un tournant. La réforme des retraites de 2003 qui a dit « fini les pré-retraites publiques ». Mais bon, et on renchérit le coût des pré-retraites pour les entreprises. Il y a une taxe en quelque sorte. C'est une réforme des retraites intéressante où on allonge la durée d'activité. Donc c'est une tentative pour enfin que la France remonte le taux d'emploi des plus de 50 ans. Parce qu'on était vraiment, vraiment très, très bas.
Pour contrebalancer les effets de ces décennies de pré-retraite, les politiques publiques s'échinent depuis à allonger notre temps passé au travail. 60, 62, 63 ans, l'âge de la retraite semble sonner toujours plus tard, comme un horizon qui ne cesse de s'éloigner. Or, c'est précisément dans cette tranche d'âge, les 60-65 ans, que nous avons un faible taux d'emploi. Quasiment une personne sur deux est déjà sortie du marché du travail quand arrive l'âge du taux plein pour la retraite. Et ce chiffre englobe des trajectoires très différentes.
Bon, il y a ceux qui ont arrêté de travailler, comme les femmes par exemple, quand elles ont eu des enfants, qui sont sorties du marché du travail bien avant 50 ans ou 55 ans. Et il faut savoir qu'on a un pic de rupture conventionnelle, alors qu'il a évolué. Les ruptures conventionnelles concernent tous les âges. Mais on a un pic, une sorte de concentration des ruptures conventionnelles. Avant, c'était 59 ans. Maintenant, c'est 60 ans. Mais ça veut dire que c'est, en gros, les stratégies, et là, on les retrouve dans le contexte Covid, pandémie. Les entreprises font tout pour se débarrasser des seniors, puisqu'elles doivent réduire leur masse salariale. Et il faut savoir que ces ruptures conventionnelles, elles sont intégrées dans les stratégies des entreprises aujourd'hui. Et toutes les entreprises qui veulent réduire leur masse salariale essayent de maintenant c'est des ruptures conventionnelles collectives et pas seulement individuelles, et donc on fait des sortes de plans collectifs de ruptures conventionnelles autour de 30 mois avant, parce que ça évolue compte tenu de l'augmentation des durées de contribution exigées pour la retraite. Et donc, vous avez une extraordinaire pointe de rupture conventionnelle que l'OCDE, quand il fait ses rapports sur l'emploi, considère comme des pré-retraites déguisées.
Dans ce contexte de crise, les pré-retraites n'ont pas été le seul outil à la disposition des entreprises pour alléger leur effectif. Leurs employés, jugés trop âgés mais pas suffisamment pour prétendre aux pré-retraites, se sont vus offrir des conditions de départ très convaincantes dans le cadre de ruptures conventionnelles. c'est-à-dire lorsque l'employeur et le salarié décident ensemble de mettre fin au contrat de travail.
Je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, on va me proposer un licenciement à cause de mon âge. Parce que si on décide de se séparer d'un pan de la population, je vais rentrer dedans. Je ne rentre pas dans la pré-retraite, mais je rentre dans les fins de carrière.
Caroline n'était pas éligible aux pré-retraites de son entreprise. À 58 ans, elle est trop jeune pour y prétendre à quelques mois près. Alors, dans un contexte de pandémie, de choc économique brutal pour l'aéronautique, son entreprise a tout de même trouvé un moyen de lui faire quitter volontairement l'effectif.
Donc ce plan de départ, avec ses opportunités, était directement lié au Covid. Et donc, il y a eu un dispositif mis en place dans l'entreprise avec trois types de mesures. Donc une mesure pour les pré-retraites, une mesure pour la création d'entreprise et une mesure pour la reconversion. Et c'est donc cette troisième option que j'ai choisie.
Après une carrière trépidante dans les ressources humaines, des postes à haute responsabilité et des déplacements fréquents dans le monde entier, le travail a toujours occupé une place très importante dans la vie de Caroline, et jusqu'à encore très récemment.
Alors, il y a 10 ans en arrière, j'étais encore en pleine ascension. J'avais des postes extrêmement intéressants. J'étais encore très investie, dans le travail. C'était une période aussi où on confiait des responsabilités importantes à un âge avancé. Je veux dire, même proche des 50 ans, puisqu'on peut considérer que c'est un âge avancé, en tout cas senior, comme son terme l'indique. C'était vraiment très très récemment, moi je n'ai jamais eu l'envie, vraiment la motivation de quitter l'entreprise. Sauf à mon dernier poste, j'avoue que mon dernier poste était certainement le moins excitant, il avait quelques aspects intéressants, ça n'a pas été le poste le plus excitant. Et c'est au moment où des propositions d'options de départ, de dispositifs de départ ont été proposées, donc vraiment extrêmement récemment.
On est alors 7 mois après le premier confinement, en octobre 2020, et Caroline ne manifeste qu'une curiosité vague pour ces mesures. Cette maman de 2 grands adolescents a bien un projet de reconversion assez flou en tête, créer un gîte avec des membres de sa famille sur la côte méditerranéenne. Son entreprise lui propose de monter un dossier, de le faire étudier par une commission d'experts pour en estimer la viabilité.
Donc, j'ai exploré la reconversion, ayant toujours en tête ce projet familial, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'activer cette piste. Donc regardons-le dans le détail. Et donc là, je m'y suis vraiment penchée à l'automne 2020, en septembre-octobre. Voilà.
Le projet de Caroline est accepté, sa formation lui est payée par son employeur, de même que son salaire, qui continue de lui être versé de manière dégressive pendant 1 an. Une aide convaincante à laquelle s'ajoutera une indemnité de départ conséquente. Car Caroline a signé une rupture conventionnelle avec son employeur qui ne prendra effet qu'une fois son année de formation effectuée. En janvier 2021, Caroline commence cette formation et quitte l'entreprise dans laquelle elle aura passé 30 ans. Elle s'estime aujourd'hui heureuse de pouvoir concrétiser ce projet de famille. Mais c'est un projet qu'elle ne pensait pourtant concrétiser que dans un horizon lointain, l'horizon de sa retraite.
Je serais clairement restée parce que il n'y avait aucune autre raison de quitter cette entreprise. Bon là déjà j'ai vraiment pesé, bien pesé le pour et le contre parce que c'est une prise de risque. Même si j'assume totalement mon choix. Je vous cache pas que parfois j'ai un peu aussi d'anxiété ou d'incertitude me disant est-ce que j'ai bien fait. Il faut regarder devant donc je suis ravie d'avoir pris cette trajectoire. Mais ça n'est pas toujours facile de quitter un environnement qui vous porte, qui vous rassure, et puis la stabilité également, professionnelle.
Entre ceux qui sont partis en retraite, en pré-retraite, et les aides financières au projet de reconversion, les entreprises ont redoublé de créativité pour inciter au départ sans licencier. Car c'est la solution qui paraît la plus indolore, socialement parlant. Les entreprises se félicitent d'avoir contenté le plus de monde possible dans cette crise économiquement violente. Plutôt que de licencier, elles ont aidé ceux qui voulaient partir. Des départs facilités et sans alourdir leur bilan. S'ils ne prennent plus le chemin du bureau, ces seniors en pré-retraite restent dans leurs effectifs jusqu'à leur retraite à taux plein. Dans son entreprise, Caroline a constaté que ces dispositifs ont eu un succès indéniable. Il y a eu bien plus de seniors volontaires au départ que de places réelles en pré-retraite.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme un appel d'air, effectivement. Je pense que c'est encore une fois lié un petit peu au quotidien au travail dans ces dernières années, qui fait que c'est en fait, je pense, le reflet aussi du changement de la société, avec tout qui s'accélère. Cette montée du numérique qui fait que on passe, comme je disais au début de l'entretien, beaucoup de temps devant l'ordinateur au détriment des rapports directs, rapports humains, et donc je pense que les personnes, peut-être à un âge avancé, manquent un petit peu de cette humanité, de ce côté, surtout celles qui ont fait pratiquement toute leur carrière et qui ont connu autre chose. Puisque cette entreprise était une entreprise familiale où tout le monde se connaissait, etc. Puis après ça a grossi et donc le paysage a un petit peu changé et donc je peux comprendre tout à fait que cette génération-là soit un petit peu en manque de ce qu'elle a connu précédemment et que ce rythme effréné, ce rythme soutenu, soit difficile et soit épuisant aussi physiquement.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La sociologue Anne-Marie Guillemard constate parmi ces générations une lassitude généralisée et une impression d'être sur la sellette au travail.
D'une part, on leur propose rien de motivant pour rester. Déjà, c'est pas attractif ce qu'on leur propose. C'est de faire la même chose, parce que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à 50 ans, ça n'existe pas. Ils sentent qu'ils sont à risque dans l'entreprise et pas forcément considérés, parce que leur manager leur a dit « Oh bah tu vas pas te former, t'es trop vieux ». Donc, ils s'auto-éliminent également, même si on les pousse pas. Donc, il y a ça, on ne leur propose rien, ils sont à risque, ils le sentent, donc ils vont prendre la première opportunité. Il faut savoir aussi que ces ruptures conventionnelles, quand on a fait des études sur les ruptures conventionnelles, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas des départs volontaires, puisque les entreprises jouent beaucoup sur ce volontariat. Mais en fait, c'est plutôt du départ forcé, dans la mesure où les salariés se disent « si je prends pas l'occasion, après je vais me faire virer dans des conditions moins bonnes. » Et puis j'en ai ras-le-bol. Je n'ai pas de perspective en emploi.
Même parmi les mieux lotis, ceux en CDI, on perçoit un réel mal-être à vieillir en entreprise. Selon l'Association pour l'emploi des cadres, un cadre sur quatre en fin de carrière se sent menacé par un licenciement. Et avec la crise, bien sûr, ce sentiment n'a fait que se renforcer. On peut donc se demander si ces départs mis rapidement sur pied dans le cadre de la crise Covid sont réellement volontaires face aux perspectives peu réjouissantes du marché de l'emploi. Anne-Marie Guillemard ne le pense pas.
Par exemple, l'étude à laquelle j'ai fait référence sur les ruptures conventionnelles montrait, quand on interrogeait les gens qui sont partis en rupture conventionnelle, qu'en fait, ils ont signé, mais dans une situation de non-choix, et que s'il n'y avait pas eu cette situation et cette rupture, cette possibilité de rupture conventionnelle, il ne serait pas parti, il serait resté. Donc il faut bien voir la situation dans laquelle ils sont. On ne leur propose rien de très attractif. L'avenir, c'est plutôt s'ils restent, ils vont devoir faire plus, donc ils auront plus de pression, plus de contraintes temporelles, pas forcément un intérêt du travail plus grand, et une dégradation du climat de l'entreprise. Pas de motivation pour rester, voilà, il y a un intérêt à partir, mais qui n'est pas un choix. C'est bien ça qu'il faut voir, parce que les entreprises, évidemment, jouent sur cet aspect départ volontaire, mais ce volontariat, il est lié à une situation extrêmement difficile de ces classes d'âge.
Parmi les conditions difficiles des seniors, il faut aussi compter que les seniors s'occupent de leurs parents, très âgés et dépendants, en parallèle de leur vie professionnelle. En France, l'âge moyen des aidants s'établit à 64 ans. Et pour ceux qui travaillent encore, cela occasionne une plus grande fatigue au travail, ainsi qu'une difficulté à se concentrer. Qu'ils soient aidants épuisés ou licenciés pour des raisons économiques, derrière ces ruptures conventionnelles et ces départs précipités, les seniors fragilisés forment une frange de la population appelée les ni-ni.
Les ni-ni, c'est ni retraités, ni actifs en emploi.
Ces ni en retraite ni en emploi sont à 66% des femmes, selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. Et parmi elles, on retrouve un nombre important de personnes dépendantes des revenus de leur conjoint ou conjointe. Un senior sur quatre ne perçoit aucun revenu personnel ni minima sociaux. Cette longue période de chômage, d'inactivité des ni-ni, avant de toucher leur retraite effective, les fragilise inévitablement.
Pardi, c'est ni-ni, vous avez des chômeurs, donc ils épuisent leurs droits au chômage. Et dans la situation actuelle où on a réformé l'assurance chômage, il y a aussi là des limites, la durée n'est plus du tout du même ordre. Et donc vous avez des gens, et nombreux, en minima sociaux.
Un senior sur cinq perçoit l'un des deux principaux minima sociaux, soit l'allocation adulte handicapé et ou le RSA. Et un tiers de ceux actuellement sans emploi vivent sous le seuil de pauvreté. Anne-Marie Guillemard, auditionnée récemment par le Sénat et l'Assemblée nationale, n'a cessé d'alerter sur le risque de paupérisation de cette part croissante de la population. Aujourd'hui, et comme dans toutes les périodes de crise, ils sont fragilisés. Se retrouvant sans emploi, ils ne cotisent donc plus et le montant de leur pension de retraite n'en sera qu'amoindri.
Donc ça fait une poche de pauvreté et de précarité en fin de carrière, qui est assez longue quand même, 2-3 ans, c'est pas rien. Et cette poche de précarité va aussi créer des retraités pauvres dans l'avenir. Donc on est là dans une situation, je trouve, gravissime.
Les entreprises qui mènent ces plans dans un contexte économique tendu ont dû agir vite. Il fallait réduire la masse salariale pour faire face à la baisse drastique d'activité et coûte que coûte. Airbus aurait dépensé plusieurs centaines de millions d'euros pour ses aménagements de fin de carrière. Les seniors sont identifiés en priorité parce qu'ils manifestent une envie de partir et parce qu'ils ont les salaires les plus élevés. C'est ce qu'explique Olivier Mériot. Il est consultant et il a co-rédigé un rapport pour favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés, remis au gouvernement juste avant la crise du Covid.
Faire progresser le taux d'emploi, c'est à la fois c'est une affaire de responsabilité partagée. Il y a les comportements et les contraintes objectives du côté des salariés. Et puis, il y a les comportements des entreprises. Or, on a pu en avoir encore un rappel avec, depuis la crise Covid, malheureusement, le comportement, on va dire, d'acteurs rationnels, entre guillemets, d'une partie, hein, en tout cas non négligeable, des entreprises, plutôt des grands groupes, c'est de considérer qu'à partir, mettons, de 57, 58, 60 ans, les salariés pèsent plus lourd, en termes de masse salariale, qu'ils ne rapportent, entre guillemets, à l'entreprise, en termes de contribution, de productivité, etc. Et donc, ça explique aussi le choix que font beaucoup d'entreprises d'essayer de faire, quand elles doivent notamment ajuster leur effectif, d'essayer de faire partir en premier cette catégorie de salariés.
Avec ces dispositifs de crise, les entreprises ont pu se permettre de renverser leur pyramide des âges, jugée trop âgée ces dernières années. Et les pré-retraites sont donc ressorties du placard aux grandes dames d'Anne-Marie Guillemard.
On revient aux pré-retraites, ce qui est, à mon avis, tragique pour les entreprises françaises et leur compétitivité, etc. Je pense qu'on est dans une situation... Malheureusement, les politiques publiques n'ont pas su prendre la mesure. Donc, c'est des départs massifs dans certaines entreprises. C'est jusqu'à 50% de renouvellement dans les 5 ans qui viennent. Si vous décapitez ces seniors expérimentés, vous n'avez plus de possibilité de transmettre l'expérience aux juniors, aux nouveaux venus, aux cadres intermédiaires, aux âges médians, et donc vous perdez de la compétitivité. Donc je crois que c'est très inquiétant par rapport à l'appareil productif français et à la position de la France dans la compétitivité internationale.
Des problèmes structurels risquent d'émerger dans les prochains mois. Des pénuries de compétences pourraient survenir dans des secteurs clés. Et les syndicats s'en alarment. Florent Velletchi, syndicaliste CFTC à Airbus, se félicite d'avoir contenu la vague des départs et de n'avoir jamais cédé sur une ligne rouge aucun départ contraint. Mais les salariés partis précipitamment en pré-retraite vont rapidement manquer pour la reprise.
Les départs de salariés expérimentés, je pense que ça peut nous pénaliser sur la reprise, notamment les gens qui ont traversé des crises et notamment les personnes qui ont cette connaissance d'adaptation, de changement et de pouvoir avancer après une crise. Faut pas oublier, en fait, l'entreprise au sens large, la filière aéronautique, elle a traversé plusieurs crises, mais jamais comme celle-là. La crise Covid, on a connu le 11 septembre aux États-Unis avec les attentats, on a connu le SRAS, on a connu certaines crises, mais à chaque fois c'est reparti assez rapidement derrière. Là, on parle d'années pour repartir, on parle pas de mois, on parle d'années.
Des départs en masse à l'échelle de l'entreprise et qui risquent de se payer cher une fois la crise dépassée.
Je pense que ce type de personnalité-là, ce type de personnes qui ont traversé des grosses crises industrielles, elles vont nous manquer pour certaines. Parce qu'on en a perdu certains. Quand je dis on en a perdu, c'est vraiment des gens qui ont été de tous les combats. Et ces gens-là, ils sont partis. Alors c'est pour des histoires d'âge, hein. C'est pas pour des histoires de c'était l'opportunité de ci, de ça, c'est des gens qui arrivaient à un certain âge. Et bon, le résultat est que on a certains capitaines d'industrie qui sont partis, on a certains spécialistes et experts qui sont aussi partis. Est-ce qu'on a pu les former, leur remplaçant dans des bonnes conditions? Je ne sais pas.
Sans vouloir opposer les générations, l'Association nationale des DRH prêche pour un plan senior à l'issue de la crise qui serait à la hauteur du plan jeune. Fin mars, l'association l'a défendu devant la Commission des affaires sociales. Ce plan serait fondé sur un allègement des cotisations sociales à l'embauche d'un travailleur âgé et d'un meilleur financement des plans de transition professionnelle des seniors. Sur le plus long terme, l'association espère une formation tout au long de la vie et davantage axée sur la collaboration intergénérationnelle, car les seniors sont souvent désireux de mentorer les jeunes travailleurs. Des solutions déjà mises sur la table du gouvernement et au moins depuis janvier 2020, car elles sont inscrites dans le rapport remis par Olivier Mériot à Édouard Philippe.
C'est le 5e rapport sur le sujet en moins de 2 ans. Donc ça fait beaucoup de rapports et peu d'actions sur ce sujet. Et puis, sur cette base-là, on a essayé de se poser la question, comment ne pas faire le 6e rapport qui dirait les mêmes choses que les 5 précédents. Donc on a un peu travaillé sur les angles et sur l'approche, ce qui nous a amené d'ailleurs très rapidement à faire la proposition de se débarrasser en fait du titre qui avait été donné à la mission, hein, « Emploi des seniors ». Et donc, on a plutôt parlé des travailleurs expérimentés plutôt que des seniors pour, dès le début de nos travaux, induire l'idée d'un changement de perspective sur le sujet. Sur cette question-là, le vocabulaire, il a évidemment beaucoup d'importance parce que le terme classique, c'est celui du maintien en emploi des seniors. Quand on veut parler des politiques menées pour essayer de garder sur le marché du travail les travailleurs le plus longtemps possible, dans le vocabulaire administratif français, on parle du maintien en emploi des seniors. D'abord, le terme de maintien, c'est un terme très, voilà, très défensif, voire même palliatif. Hein, ça introduit l'idée qu'il faut à tout prix garder les travailleurs sur le marché du travail, comme s'ils n'étaient pas eux aussi capables d'apporter des compétences et leur expérience en premier. Ce terme de travailleur expérimenté, on l'a retenu parce qu'il symbolisait ce que on considère être l'axe principal de notre travail, c'est-à-dire la proposition d'une stratégie globale et offensive axée sur la reconnaissance de la valeur de l'expérience au travail.
Son rapport terminé, Olivier Mériot a appelé à acter dès à présent un passage à échelle et un changement de paradigme. Mais le Covid-19 est arrivé, son rapport remisé à plus tard, et l'ancien directeur adjoint à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail n'a pu que constater à quel point la mentalité française reste profondément inchangée sur le vieillissement au travail.
Il y a ces dispositifs de pré-retraite d'entreprise qu'on a vu revenir assez fortement depuis la crise Covid et qui montrent bien qu'il y a toujours cet accord, enfin cette convergence d'intérêts entre les entreprises et les salariés pour anticiper les départs retraite dans des bonnes conditions, entre guillemets. Alors, ça existe toujours. Ça veut dire qu'on est encore loin. Toutes les entreprises sont encore loin de considérer les travailleurs seniors comme des travailleurs porteurs d'une expérience et de compétences importantes.
C'était pourtant l'une des solutions préconisées dans son rapport, revaloriser l'expérience et les compétences de nos aînés. Il y propose aussi une adaptation rapide du droit, car nous allons devoir envisager de nouvelles formes d'emploi à l'approche de la retraite et d'autres modes de travail aménagés. Il permettrait ainsi de continuer à cotiser et d'amorcer une transition plus progressive, plus douce vers la retraite.
Si on veut changer de paradigme, on en a pratiquement un tout prêt, qui est encore emballé, en fait, dont on n'a jamais fait usage en France, qui a été travaillé notamment par la Commission européenne et des institutions européennes au début des années 2010, on va dire, qui est le paradigme du vieillissement actif au travail. C'est une stratégie globale, intégrée, qui vise à articuler en fait l'ensemble des leviers qui, sur les différents champs, permettent de faire en sorte d'anticiper le plus possible les conditions d'un travail efficace et dans de bonnes conditions jusqu'à un âge avancé. Et donc, ça veut dire aussi avoir une stratégie qui joue à la fois sur, évidemment, au premier, la santé et les conditions de travail, parce que ça reste un facteur majeur qui explique les retraits précoces du marché du travail. Donc santé, conditions de travail, mais aussi compétences, parce qu'évidemment, il y a aussi une problématique de prévention des risques d'obsolescence des compétences. Les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité, c'est-à-dire à la fois d'avoir pas saisi l'opportunité de la stratégie du vieillissement actif au niveau européen. Et puis aussi parce que on est peut-être aussi culturellement un pays dans lequel l'âgisme, entre guillemets, la discrimination au motif de l'âge, est peut-être plus prégnante que dans d'autres pays.
Pour maintenir les gens en emploi entre 60 et 65 ans, il ne faudrait plus s'arc-bouter sur des âges de départ fixes, mais davantage de flexibilisation pour s'adapter à tous les parcours de vie, selon Olivier Mériot. Dans son rapport, le consultant a notamment proposé l'adoption du « right to request » déjà en vigueur dans les pays anglo-saxons. Ce droit à l'aménagement raisonnable du temps de travail est à l'initiative du salarié.
Dans ces pays-là, les salariés de plus de 50 ans notamment, mais pas seulement, ont le droit de demander à leur employeur un aménagement de leur travail, temps de travail ou organisation du travail, en fonction de leurs besoins et contraintes propres. Et l'employeur n'a pas l'obligation de leur répondre positivement. Par contre, s'il répond négativement, il a l'obligation de l'argumenter et de le documenter de manière très précise. L'objectif, c'est d'engager le début d'un dialogue, une discussion entre l'employeur et le salarié. Alors, une discussion qui peut passer aussi par l'intermédiaire des représentants du personnel, mais c'est souvent dans un deuxième temps. Si vous voulez, ça renverse un petit peu la charge de la preuve. C'est-à-dire que si l'employeur refuse ces aménagements, il doit expliquer pourquoi. Et il peut pas l'expliquer par n'importe quel motif, parce que derrière, il y a les possibilités de recours, ensuite, différents niveaux, jusqu'à des recours juridictionnels. Et donc, il y a une doctrine, et il y a une jurisprudence qui se construit petit à petit par rapport à ça. Donc, en fait, pourquoi ça semble intéressant? C'est parce qu'on voit bien que là, ça joue sur, en fait, des facteurs de rigidité dans l'organisation de l'entreprise, qui sont des facteurs qui vont limiter le choix des individus. Il y a bien deux volets à explorer et deux axes de progrès. Il y a d'une part, au sein de l'entreprise, de trouver des modes d'organisation beaucoup plus souples qui fassent en sorte que chaque salarié puisse faire des choix, des équilibres différents entre ce qui est son activité de travail et d'autres activités qui peuvent être contraintes. Hein. On parle en particulier de la situation des aidants familiaux, des personnes qui ont des maladies chroniques évolutives et qui doivent... on doit penser l'aménagement des fins de carrière avec ce paramètre-là. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire effectivement, les aménagements de fin de carrière, c'est pas forcément en restant à l'emploi, dans l'emploi, c'est aussi d'autres formes d'activités indépendantes, d'autres formes d'activités... associative, d'autres formes d'engagement. Alors, de ce point de vue-là, dans le rapport, encore, on n'avait pas fait œuvre très originale, hein, en essayant de souligner l'intérêt qu'il pouvait y avoir à des formes, par exemple, de cumul emploi-retraite, qui sont des formes qui peuvent intéresser beaucoup de salariés. Alors, elles intéressent, malheureusement, je veux dire, elles intéressent ceux qui ont des petites retraites, et donc qui sont obligés de continuer à retirer un revenu de leur activité, même après avoir liquidé leur retraite, mais elles peuvent aussi intéresser de manière croissante des salariés qui veulent ne plus envisager la retraite, ça aussi c'est un trait culturel très français, mais, qui ne veulent plus envisager la retraite comme une rupture brutale, hein, et le passage de tout à rien.
Olivier Mériot s'est forgé la conviction qu'il faut résoudre ce problème urgent, mais que cela ne pourra pas se faire dans un temps court. C'est une action structurelle à mener sur le temps long. Et au-delà de la question des retraites, c'est le vieillissement généralisé de notre société qu'il faudra aborder de manière plus globale, pour repenser un système de retraite plus viable. Et il faudra pour cela une révolution de la société, celle qui prendra en compte le vieillissement actif, une révolution qu'Anne-Marie Guillemard appelle depuis 2003. La sociologue a voulu développer l'exemple d'un de nos voisins européens qui a réussi cette révolution, c'est le cas de la Finlande.
C'est dès 1998 que la Finlande décide d'arrêter les pré-retraites, c'est-à-dire vraiment de changer de cap et de se saisir du problème, parce qu'ils ont un gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Le taux de natalité s'est effondré et ce n'est pas un pays d'immigration. Donc, à cause de la langue, largement. Et ils ont un chômage à 9%. Donc, c'est vraiment une situation qui, pour eux, est catastrophique. Et le pouvoir public s'empare du problème. On aurait pu trouver la même chose en France, mais ce n'est pas le cas. Et ils disent, il faut prolonger la vie active. On ne va pas s'en sortir, sinon, avec les pénuries de main-d'œuvre, on coule. Donc, ils mettent en place un plan national quinquennal pour l'emploi dès plus de 45 ans, donc c'est ciblé, mais large quand même, donc on viendrait, 1998-2002, avec un slogan « L'expérience est une richesse nationale ». Donc on voit tout de suite l'idée de revaloriser l'image des seniors et de les rendre attractifs pour les entreprises, par la valorisation de leur expérience, apprendre aux entreprises à gérer les seniors, ce qu'elles ne font pas, et montrer aux entreprises que gérer les seniors, ça leur rapporte plus que de se débarrasser des seniors, qui leur coûtent. Donc c'est ça la logique, et l'idée, c'est de faire des seniors un atout pour l'entreprise et le pays. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont mettre en place toute une gestion prévisionnelle des parcours et des compétences, un développement des parcours de formation. C'est à ce moment-là que la Finlande va mettre en place une formation tout au long de la vie, parce qu'en France, on n'y est toujours pas. Et pour en finir avec l'expérience finlandaise, L'intérêt de l'expérience finlandaise, ça a été de montrer aux entreprises qu'elles font un mauvais calcul. Et donc, une partie des choses a été de dire, eh bien, on fait une amélioration du travail plus favorable aux seniors dans un atelier ou un bureau, et puis on voit ce que ça donne. Et on démontre aux entreprises que l'investissement qu'elles ont eu pour faire ce changement d'adaptation du travail a des retours de plus du double en matière de productivité du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse les entreprises. Et vous disséminez ça par des bons exemples, des bonnes pratiques auprès des autres entreprises. C'est plus du tout garder à votre bon corps, garder votre senior. C'est vous avez intérêt. Donc on se situe dans la perspective des entreprises et de la gestion et du management des ressources humaines qu'elles mettent en œuvre. Donc ça, c'était le succès des plans finlandais a été incroyable. On était en 2002.
En 5 ans, le modèle finlandais a permis de décaler l'âge effectif de sortie du marché du travail de 58 à 62 ans. Les conséquences du Covid-19 nous révèlent à quel point en France nous en sommes loin, à quel point la culture de la sortie précoce reste profondément ancrée.
Elle perdure parce qu'elle n'a jamais été éradiquée. Contrairement à la Finlande, par exemple, on n'a jamais vraiment mis fin à cette logique de gestion des ressources humaines des entreprises, qui est essentiellement une logique de segmentation par l'âge. On met toujours des âges. Et malheureusement, comme on a continué au sein des réformes des retraites à considérer qu'il y a des âges quasi légaux de la retraite, on est toujours dans la segmentation par l'âge au lieu de considérer qu'on doit gérer les parcours et de manière préventive.
L'exemple de la Finlande nous montre que cela reste possible et que reculer sans cesse l'âge de départ par des réformes successives ne suffira pas. Il faudra un jour, et rapidement, se saisir de cette question du vieillissement de notre société pour assurer la pérennité de notre système de retraite et également pour assurer la cohésion de notre société. Que ce soit dans la formation professionnelle, la meilleure prise en compte de la santé au travail ou l'amélioration des conditions de travail. Que chacun puisse se sentir utile en participant, et quelle que soit son occupation, quel que soit son âge, au fonctionnement de la société.
Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Marion Botorel. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis 2 mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une 50aine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.